Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne de l'Europe Direct Strasbourg qui vous est proposée sur Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Cette année encore, nous vous proposerons des entretiens avec des personnalités qui font l'Europe d'aujourd'hui pour vous apporter des éclairages et des clés de compréhension sur les grands sujets de l'actualité européenne. Et pour commencer cette nouvelle saison, nous allons revenir sur ce que l'on pourrait appeler un marronnier de l'actualité européenne, particulièrement ici à Strasbourg, la question des sièges des institutions européennes et notamment celui du Parlement européen. Alors Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles, trois villes, trois histoires, trois façons de raconter l'Europe. Alors derrière les bâtiments que nous connaissons aujourd'hui, il y a une bataille qui dure depuis plus de 70 ans, je dirais même depuis le début de la construction européenne. Alors qui a gagné, qui a perdu et surtout qu'est-ce que ces rivalités nous disent de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui? C'est le sujet du documentaire « Europe, la bataille des sièges » réalisé par Donato Rotuno, une production franco-luxembourgeoise, Sérigofilm et Tarantula. Alors, le film sera présenté en avant-première française le 15 septembre au Parlement européen, puis diffusé sur France 3 Grand Est le jeudi 17 septembre à 22h45. Et pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver Alexis Metzinger, co-auteur du documentaire. Bonjour Alexis Metzinger.
Bonjour Olivier.
Alors merci d'être avec nous. Je dois dire que j'avais déjà eu le plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir il y a 5 ans pour un documentaire que vous aviez réalisé sur Jean Monnet, je crois.
Oui, c'est ça. Alors c'était déjà une coproduction et j'étais déjà le co-auteur, mais c'était Jean Monnet, le père discret de l'Europe. Et donc c'était déjà sur la construction européenne, voilà, et l'histoire de l'Europe.
Ouais. Donc on revient cette fois sur l'Europe, mais un sujet presque, je dirais, presque plus local. Alors au cours de cet échange, nous allons vous proposer plusieurs extraits de votre film qui permettront d'éclairer vos réponses et de revenir sur certains moments importants de cette histoire. Alors revenons déjà sur la genèse de ce projet. Comment est née l'idée de ce documentaire avec Donato Rotuno?
Alors l'idée est née à Strasbourg. En fait, et elle est née, c'est Christian Mutzinger, qui est producteur avec nous à Sérigofilm. Et donc, il y a Christian, Yanis, mon frère, et moi-même. Et ben, en fait, à la fin, lorsque le film sur Jean Monnet venait de se terminer, on se disait, tiens, il faudrait continuer l'aventure européenne. Et je crois que c'est Christian qui s'est dit, mais la bataille des sièges à Strasbourg, on connaît que ça entre Bruxelles et Strasbourg. Mais d'où ça vient exactement et quelle est cette histoire vraiment? Et est-ce qu'il n'y aurait pas là de quoi faire un autre grand film européen? Et donc on a commencé à creuser. Et en fait, plus on creusait, plus on se rendait compte que c'était des histoires incroyables, qui étaient assez méconnues. Puisque, comme vous disiez, dans les marronniers, on parle un petit peu de l'histoire récente, des querelles de chapelles entre Bruxelles et Strasbourg. Mais en fait, l'histoire remonte effectivement au tout début de la construction de l'Union européenne. Et elle n'a pas arrêté depuis.
Alors, pour raconter cette histoire, vous avez fait des choix assez marqués, à la fois sur le fond et sur la forme. Vous avez choisi de ne pas utiliser de voix off. Ce sont des intervenants, donc des témoins, les archives, de la musique qui racontent cette histoire. Alors, pourquoi ce parti pris plutôt qu'un documentaire classique avec une narration qui viendrait expliquer les événements?
Alors, pour ça, en fait, il faut comprendre que l'histoire de ce film, elle est en deux temps. Comme je dis, il y a premier temps, ce travail d'écriture et de développement qui s'est fait ici à Strasbourg, à Sérigofilm. Et ensuite, on s'est très vite dit que pour un film comme ça, on ne pouvait pas rester à une production strasbourgeoise, on pouvait avoir une ampleur européenne et surtout avoir plusieurs regards pour ne pas qu'on puisse croire qu'on a un regard uniquement strasbourgeois. Ce n'était pas du tout le cas dès le début. Donc, on a contacté Donato Rotuno, avec qui Christian avait déjà travaillé par le passé, qui a accepté à la fois de coproduire le film et de le réaliser. Et là, on s'est très vite entendu tous sur le fait que sur un sujet comme ça, qui était à la fois un sujet historique, en même temps pas si grave quand on pense que la jeunesse du film s'est fait au début avec la guerre en Ukraine et tout ça, donc il y avait un côté un peu léger, même si ça touchait des questions de fond, de qu'est-ce que l'Europe et qu'est-ce que la construction européenne. Et donc là, avec Donato, il y a eu le choix à la fois de donner une importance très grande à la musique, et de faire en sorte que le montage soit musical, presque, la musique est presque antérieure au film lui-même, et ensuite, effectivement, de construire à partir d'entretiens de personnes qui ont participé à la bataille des sièges, donc des personnes comme Catherine Trautmann, Jean-Claude Juncker ou Louis Michel en Belgique. Et je trouve que là, ce qui fait que quand on regarde le film, on apprend des choses, mais on n'a pas du tout l'impression de regarder un énième documentaire sur la construction européenne, ce qui peut y avoir parfois une forme de lassitude, même si elle peut être trompeuse. Et là, je pense que le pari est réussi, d'avoir réussi à raconter cette histoire de manière dynamique, entraînante et intéressante, alors que peut-être qu'a priori, la bataille des sièges, surtout à Strasbourg avec le marronnier, on pourrait se dire « Ouh là là, on va encore nous raconter une énième histoire », et en fait non, on découvre les dessous de l'histoire de l'Europe.
Alors les entretiens ont été menés par Caroline Marr. Comment avez-vous travaillé ensemble pour que des témoins qui n'ont donc jamais été filmés au même moment, finalement, et c'est une des richesses de ce film, se répondent d'un bout à l'autre du film?
Alors ça, c'est un grand travail. Il y a eu d'abord l'écriture du film, donc une bonne connaissance des événements et du rôle des uns et des autres. On va dire, dans le film, enfin non, il y a les trois, effectivement, Catherine Trautmann et Louis Michel, un peu qui se lancent des piques, et Jean-Claude Juncker aussi, ou Luxembourg, qui réagit. Et ensuite, c'est dans l'ordre des interviews. Alors, pour les interviews suivantes, on a posé des questions, Caroline a posé des questions, en ayant en tête les réponses des précédents. Et effectivement, pour les premiers, il fallait anticiper un petit peu. Mais voilà,
Par exemple que Catherine Trautmann est interviewée à deux moments différents, puisque une fois, je pense qu'elle est à la maison Kamerzel et une fois, elle est au Parlement.
C'est ça. Alors bon, ça s'était fait la même journée. Elle a accepté de nous accorder une journée entière pour nous. Mais ça s'était fait la même journée, justement, pour montrer la partie avant la construction du Parlement. On l'a interviewé dans le vieux Strasbourg, la maison commerciale, comme vous l'avez très bien reconnu, et ensuite on est allé au Parlement. Mais l'idée, c'était de montrer quand même les deux aspects, c'est qu'effectivement, ils se lancent des piques, en tout cas, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à prouver, donc ils parlent sans langue de bois, donc c'est quand même important quand on interroge des personnalités politiques, surtout sur le sujet européen, donc il n'y a aucune langue de bois, ils peuvent se lancer des piques, mais ils sont tous pro-européens. Donc il y a différentes visions de l'Europe qui s'affrontent. Est-ce qu'on va avoir une capitale unique à Bruxelles? Est-ce qu'on va avoir plusieurs sièges éclatés? Donc il y a des visions très différentes. Mais ce n'est pas Europe contre anti-Europe. C'est plutôt des visions qui, au final, quand même construisent l'Europe.
Alors revenons, vous en avez déjà parlé un petit peu, au casting. On pourrait appeler ça quasiment un casting, puisqu'ils ne jouent pas des rôles, mais c'est les témoins que vous avez choisis. Alors, vous avez donc choisi de faire entendre Catherine Trautmann, donc l'ancienne maire de Strasbourg et la nouvelle maire de Strasbourg, donc en gros une protagoniste ancienne mais encore actuelle. Jean-Claude Juncker, donc qui était ancien président de la Commission européenne. Louis Michel, alors Louis Michel, peut-être que les Strasbourgeois le connaissent moins bien, mais Louis Michel est le père de Charles Michel qui était président du Conseil européen, mais surtout commissaire européen et député européen. Colette Flech, qui elle était maire de Luxembourg pendant un certain nombre d'années, et Charles Goerens, qui est aussi un peu moins connu, je pense, des Strasbourgeois, qui est un député de je pense, ça fait presque 30 ans ou plus qu'il est député européen luxembourgeois. Alors, comment avez-vous construit ce casting et qu'est-ce que chacun de ces témoins apporte au récit que les autres ne peuvent pas apporter?
Alors déjà, la première chose, c'est d'avoir au minimum des représentants des trois villes principales, donc de Strasbourg, de Luxembourg et de Bruxelles, qui... Et c'était l'idée qui ont joué un rôle important, des témoins ou d'autres députés ou des historiens, il y en aurait plein qui pourraient dire des choses passionnantes, mais là on voulait vraiment des personnes qui étaient vraiment au cœur et qui en parlent vraiment de l'intérieur. Et donc voilà, après le choix s'est fait. Alors Caroline Marx, qui est journaliste donc au Luxembourg, sur les sujets européens depuis pas mal d'années maintenant, elle connaissait ces différentes personnes, donc ça a facilité le contact et l'habitude de ce genre d'interview, ça lui a permis, je pense, d'aller plus loin que des interviews classiques en 5 minutes sur un plateau, on va dire, pour vraiment creuser et leur faire dire des choses, pas qu'ils ne voulaient pas dire, parce qu'en fait, on sent qu'ils sont très contents de pouvoir enfin dire quelques vérités bonnes à dire sur l'Europe, ou un peu sur parfois les travers ou les petitesses, mais aussi les grandeurs de la construction européenne et de cette bataille des sièges. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, un petit peu, on a contacté et on a trouvé une géographie des intervenants, si on peut dire ça comme ça, qui s'équilibrait pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre en faveur de l'un ou de l'autre.
Et il n'y a pas eu de refus?
Alors, il n'y a pas vraiment eu de refus. Enfin, comment dire? Quand on fait un film, les choix se précisent au fur et à mesure, selon parfois des disponibilités ou des questions d'équilibre, tiens, telle personne, ou voilà. Mais non, ça s'est plutôt bien passé.
Et comme vous l'avez dit, vous avez quand même pris des personnalités qui n'ont plus rien à prouver. même Colette Flèche qui nous a quitté en janvier, je crois, et qui est, elle, finalement, c'est quasiment cette interview, une interview pour l'histoire que vous avez faite.
Oui, cette interview, alors, elle a été faite avant les autres, parce qu'effectivement, elle était très âgée, et on ne savait pas, mais on se disait, bon, voilà, on va le faire sans attendre que la production soit officiellement lancée, parce qu'elle l'avait accepté, effectivement, et que du coup, cette interview devient un peu l'une de ses dernières interventions, et c'est très émouvant, parce qu'elle était quand même très, très, très jeune mère de Luxembourg. Alors, pas que je me trompe, je crois, dès les années 60.
Oui, dès les années 60, si j'ai bien lu, oui.
Et donc, elle a quand même une mémoire. Et donc, c'est... Parce qu'effectivement, ce n'est pas évident pour une histoire qui se passe sur 70 ans de raconter le début. Donc là, on est obligé, comme vous le dites, on n'a pas de voix off, à part un tout petit but au début pour lancer. Sinon, c'est les archives. Mais elle, effectivement, elle pouvait se souvenir de ce que ça a été les débuts de l'arrivée de l'Europe au Luxembourg, à une époque où Luxembourg ne voulait pas de l'Europe parce qu'ils avaient peur de perdre leur identité. Les catholiques avaient peur de l'arrivée de protestants, ils avaient peur des fonctionnaires, alors que maintenant, ça fait partie de l'identité et c'est ce qui a permis au Luxembourg de changer complètement de visage et d'être ce qu'il est. Mais les débuts étaient... on a du mal. Aujourd'hui, quand on voit... Sur le plateau où il y a toutes les institutions européennes à Luxembourg, d'imaginer qu'en fait, il y avait des maraîchers avant les années 50.
On va revenir un petit peu sur le côté architectural, aussi un petit peu du changement des villes autour de ces institutions. Elle était aussi concomitante, en fait, de Pierre Flimelin. Elle connaissait, elle, c'était vraiment le maire de Strasbourg. C'était à cette époque-là Pierre Flimelin, quand elle était maire de Luxembourg. Alors... Avant de parler de la rivalité, il y a déjà une particularité, c'est que l'Europe n'a pas vraiment de capitale officielle. C'est ça le sujet du film. Et pourtant, plusieurs villes peuvent prétendre à ce rôle.
Nulle part est-il écrit que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Mais Bruxelles prétend qu'elle est la capitale de l'Europe, ce qui est un peu vrai, à vrai dire. Et Luxembourg et Strasbourg le sont aussi.
Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait de Jean-Claude Juncker, c'est qu'on entend déjà une forme de paradoxe. L'Europe n'a pas vraiment de capitale, mais elle en a plutôt plusieurs. Lui-même dit « Oh, ce serait peut-être Bruxelles », mais finalement, Luxembourg aussi. Donc, on ne sait pas vraiment. Alors, est-ce que c'est ce paradoxe qui vous a donné envie de faire ce documentaire ?
Oui, ben oui, tout à fait. Parce que, alors, on pourrait même aller plus loin en disant que l'Europe n'a pas de capitale, elle a des sièges. Enfin, elle a des institutions qui ont des sièges dans différentes villes. Mais il y a des sièges à Ljubljana, il y a d'autres institutions qui sont dans toute l'Europe, qui sont un peu disséminées aujourd'hui. Les trois principales, on va dire, c'est Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Et en fait, dès le départ, comme vous le disiez, dès le début, la nuit du 23 juillet 1952, c'était les débuts de la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc les débuts de ce qu'allait être l'Union européenne. Tout était réglé. Il y avait juste une ligne du traité qui avait été laissée en suspens, c'est l'endroit où les institutions allaient se réunir pour travailler. Et donc, au moment de commencer, il fallait bien se réunir. Et en fait, il aura fallu 48 heures aux représentants des six pays membres, parce que chaque pays avait son siège, avait sa ville, sa ville candidate. Et en fait, Luxembourg a été choisi par défaut. Luxembourg s'est désisté des candidats pour accueillir les premières de manière provisoire.
Je vous propose d'écouter deux extraits en lien avec ce que vous venez de dire, Catherine Trottmann et Louis Michel.
La question de la capitale n'a pas été une question, je dirais, posée de manière extrêmement explicite. On a bâti, au fond, les institutions qui étaient, au fond, au départ, pas des institutions, vraiment, au même sens du terme qu'aujourd'hui, comme les traités l'ont établi, mais on a bâti des outils pour pouvoir travailler à la paix par la coopération économique sur le charbon et l'acier.
Un premier ministre belge, au moment où on lui proposait le siège unique à Bruxelles, qui n'en a pas voulu. Il y avait un accord complet au sein du groupe des fondateurs et il n'en a pas voulu. Il a dit si j'accepte ça, la semaine prochaine, mon gouvernement tombe. S'il avait accepté, il n'y aurait plus de discussion sur le siège.
En termes d'ancienneté, je dirais les deux, c'est-à-dire Luxembourg d'un côté et Strasbourg de l'autre, ont été au point de départ de la création de ces institutions.
On a quand même l'idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de siège, on se met pas d'accord, c'est ce que vous avez dit. On ne trouve pas d'accord, mais à un moment, on choisit Bruxelles, alors que Bruxelles n'était pas du tout candidat. Si je me souviens bien, on a parlé de Liège, on ne parlait pas de Bruxelles. Et tout d'un coup, on propose Bruxelles, Bruxelles est refusée. Donc finalement, c'est ce que vous disiez, c'est pendant la nuit, c'est finalement M. Beck du Luxembourg qui dit « Bah, venez, pourquoi pas, venez provisoirement chez nous. Nous, on peut commencer comme ça, à travailler comme ça. » Et donc, il accueille ce qu'on appelle la haute autorité qui sera présidée par Jean Monnet à ce moment-là.
C'est ça. Et donc, c'était du provisoire. C'était vraiment censé être provisoire. Mais bon, voilà, c'est un provisoire qui a duré. Le Parlement s'est installé à Strasbourg parce qu'il y avait déjà le Conseil de l'Europe et que les parlementaires de la CECA étaient les mêmes. Donc, autant rester au même endroit, il restait juste un ou deux jours de plus après les sessions du Conseil de l'Europe. Et voilà, et donc ça a commencé comme ça. Et Bruxelles n'est arrivé qu'avec la création de la CE. Mais je pense que alors, effectivement, on peut faire de l'histoire-fiction en se disant, si ça se trouve, si Bruxelles avait accepté dès le départ, on n'aurait eu qu'une capitale et toute l'histoire aurait été beaucoup plus simple. Et en même temps, si on n'a pas pu avoir des capitales, c'est peut-être aussi parce que l'Europe, l'Union européenne, n'est pas un État. C'est quelque chose de complètement différent. Et je pense que les fondateurs n'avaient même pas conscience de la nouveauté. Donc, on restait encore dans l'idée, on construit quelque chose, donc il nous faut une capitale. Mais s'il n'y a pas de capitale, c'est peut-être aussi parce que justement, il y a des sièges et c'est quelque chose qui est différent.
On ne savait pas ce qu'on allait construire après, peut-être.
Voilà, l'Union européenne, ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, est une construction qui est complètement inédite et inouïe sur la Terre et dans l'histoire des institutions. Donc, effectivement, ce n'était pas évident d'imaginer quelle capitale, dans quel pays, est-ce qu'il faut trouver des solutions. Enfin, est-ce que le fait de diviser en sièges dans plusieurs villes, est-ce que c'est une solution par défaut ou est-ce qu'au contraire, c'est la solution qui permet d'incarner la pluralité de l'Europe ? Les avis sont divisés, mais je trouve ça intéressant de soulever la question.
Alors, ce qui m'a également frappé dans le film, c'est que cette bataille des sièges n'est pas seulement une affaire de traité ou de vote. Parce que là, on voit, on a signé des traités, etc. À un moment, on a fixé finalement à un moment les sièges. On pourra y revenir. Il y a des votes du budget pour déplacer certaines sessions. Donc, on sait que ça se passe souvent comme ça. Mais c'est aussi une histoire de bâtiments, de quartiers, de villes, comme vous le disiez tout à l'heure avec le Kirchberg à Luxembourg, qui se sont littéralement transformés avec l'arrivée des institutions européennes. Alors, à Bruxelles comme à Strasbourg, on a vu, et à Luxembourg, on voit des grues, dans votre film, on le voit, des chantiers, et des quartiers entiers redessinés pour accueillir ces institutions. Est-ce que cette dimension urbaine et architecturale de la bataille des sièges était pour vous aussi une manière de rendre plus concret un sujet qui reste souvent abstrait ?
Oui, alors, dans le film, il apparaît de deux manières. D'une part, un petit peu des pauses visuelles, comme vous dites, où on voit les bâtiments, mais surtout en chantier, avec des grues, que ce soit à Luxembourg ou à Strasbourg, pour évoquer à la fois les institutions et le fait que c'est toujours en construction, effectivement, et c'est évoqué à travers l'histoire, comme vous dites, des constructions, mais aussi des opérations immobilières. Catherine Trottmann qui raconte un petit peu les difficultés et les querelles entre...
Dans la construction des hémicycles, on va passer un petit extrait d'une archive de France Télé de l'époque.
Cela ressemble à un coup de force du président du Parlement européen. L'Espagnol Enrique Barón a signé un contrat de bail pour les immeubles actuellement en chantier au quartier Léopold à Bruxelles. Cela s'est fait dans la discrétion, semble-t-il, et le maire de Strasbourg, Catherine Trottmann, a fait savoir qu'elle n'appréciait pas beaucoup.
Un projet qui s'étale sur 10 ans et qui prévoit 240 000 m² de bureaux, 39 000 m² de logements, 9000 m² de commerce. Le plus important investissement immobilier envisagé à Bruxelles depuis la fin de la Deuxième Guerre.
La construction d'un nouvel hémicycle pour le Parlement européen ne faisait pas partie de la stratégie de la France au moment où j'ai commencé à y réfléchir. Je le décide d'une certaine façon de mon côté. Et c'est une provocation. Évidemment, je préviens uniquement Edith Cresson, qui à ce moment-là est première ministre, que je vais lancer et présenter à la Maison de la Presse à Paris le projet de construction d'un hémicycle avec une maquette qui répondait à la maquette, qui était celle des bâtiments dédiés au Parlement européen à Bruxelles.
Alors, on voit bien dans ces deux extraits que les bâtiments ont leur importance. Cette construction d'un bâtiment à Bruxelles, alors que Strasbourg avait le siège du Parlement, il a fallu à un moment répondre très vite, et c'est ce que raconte Catherine Trottmann, avec après tous les péripéties que je laisserai nos auditeurs découvrir aussi dans le documentaire, parce que cette péripétie des sièges avec effectivement peut-être des entre guillemets, des petites corruptions, des petites magouilles, des choses comme ça, sont très, très bien racontées.
Oui, il y a, à ce moment-là, au début des années 90, il y avait presque une course contre la montre entre le bâtiment Léopold, qu'on appelle le caprice des dieux, aujourd'hui, qui était déjà quasiment construit, et Catherine Trautmann qui se rend compte que, d'une part, les bâtiments du Conseil de l'Europe vont être insuffisants par rapport aux besoins de l'Union européenne, et qu'il faut absolument contrer et proposer quelque chose de fort contre Bruxelles, et avec ce qui est aujourd'hui le Parlement européen. Et dans chaque cas, au moment de l'immigration, les moindres petits défauts, qui sont souvent normaux au début d'ouverture, ça prenait des dimensions catastrophiques en disant « Regardez, il y a le toit qui s'effondre » ou choses comme ça. Avec le temps, on se rend compte que c'est le bâtiment de Bruxelles qui a beaucoup, beaucoup plus mal vieilli, qui d'ailleurs est en train d'être refait entièrement à coups de millions, pour le coup. Alors que le bâtiment de Strasbourg, le nôtre, ici à Strasbourg, et tient un peu plus...
Il vieillit mieux.
Et aussi, quand vous parlez d'architecture, il a une architecture beaucoup plus forte, visuellement. Enfin, voilà, maintenant, il est connu dans le monde entier, avec cette tour ronde qui incarne un peu l'idée de la démocratie, qui est penchée pour montrer un peu le côté inachevé. Il y avait aussi cette idée de créer, alors non pas une capitale, mais en tout cas une institution qui symbolise quelque chose, ce qui n'est pas le cas, pour le coup, des bâtiments à Bruxelles, qui ressemblent beaucoup à des bâtiments de banque. Voilà, faut le dire.
Faut le dire, et en plus de ça, qui ont été construits avec, effectivement, là, cette fois-ci, beaucoup de défauts, puisqu'il faut les refaire. Alors, on a aussi un autre aspect qui est présenté dans votre film, c'est des alliances pour défendre les différents sièges face à Bruxelles. Il y a une alliance un peu incongrue, on pourrait le dire comme ça, entre la France et le Luxembourg, qui se sont finalement défendus face... qui ont défendu leur siège ensemble. On écoute Jean-Claude Juncker.
Il y avait une connivence cimentée entre Strasbourg et Luxembourg, parce que les maires des deux villes constituaient un couple indestructible lorsqu'il s'agissait du siège du Parlement européen, parce que les Luxembourgeois appuyaient toujours le siège strasbourgeois du Parlement et, en contrepartie, les Français défendaient toujours le maintien de toutes les institutions qui étaient à Luxembourg pour rester à Luxembourg. Donc, c'est en fait une belle histoire.
Cette alliance entre un tout petit pays, qui était le plus petit pays de l'Union européenne, et la France, face à Bruxelles, en quelque sorte, est-ce que c'est l'une des clés qui explique pourquoi ni l'une ni l'autre de ces deux villes n'ont jamais totalement perdu la partie?
Oui, alors... Pour reprendre le titre d'un livre de science-fiction récent, c'est un peu le problème à trois corps. C'est-à-dire qu'il y a trois capitales qui s'équilibrent, même si Bruxelles concentre quand même la plupart des institutions. Effectivement, peut-être que sans Luxembourg, Strasbourg aurait été isolé, ou sans Strasbourg, Luxembourg aurait peut-être aussi vu ses institutions disparaître. Il y a un équilibre qui s'est formé et qui est bon an mal an, toujours là. Il y a une autre idée quand même qui avait été exprimée par Donato sous la forme, et pourtant elle tourne, en partant de l'Europe. Et c'est quelque chose sur lequel on s'est retrouvé nous aussi à Strasbourg, c'est-à-dire que là on raconte un peu tous les défauts, tous les manigances, tous les échecs des tentatives de créer une capitale unique, mais ces échecs sont aussi l'Europe telle qu'elle est, et qui n'a pas cessé, tous le disent, que ce soit Louis Michel ou Catherine Trautmann ou Jean-Claude Juncker, l'Europe n'a pas cessé d'avancer et de construire malgré ça ou grâce à ça aussi. Donc c'est un peu une histoire un peu ambivalente de gens qui essayent de s'entendre, n'y arrivent pas et pourtant avancent ensemble.
C'est d'autant plus intéressant que j'aimerais avoir votre point de vue, on en a déjà parlé. Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles ne représentent pas exactement la même chose derrière ces trois villes. Il y a aussi des histoires nationales, des symboles. Et des rapports de force. Si vous deviez résumer ce que chacune de ces trois villes raconte de l'Europe, vous diriez quoi?
Voilà, bonne question, vous résumez.
Parce que oui, c'est vrai que...
C'est mal avance.
Parce qu'elles n'ont pas la même chose, en fait. C'est pour ça qu'elles sont complémentaires.
Oui, le Luxembourg, ou la ville de Luxembourg, dirait plutôt... alors, ils sont discrets, donc on a l'impression qu'ils travaillent de manière tranquillement de leur côté. Après, c'est aussi la Cour de justice, quand même un symbole fort.
La Cour des comptes et l'administration du Parlement.
Donc, on va dire qu'ils sont un peu de leur côté, mais ils travaillent. Bruxelles, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu l'Europe de la Commission, donc l'Europe du pouvoir, de l'attention médiatique, aussi peut-être des choses qu'on... Alors, on a tendance à y penser, pas forcément moi, mais à l'Europe des lobbies aussi, l'Europe des groupes de pression et choses comme ça, et Strasbourg, l'Europe des droits de l'homme. Mais voilà, c'est aussi les symboles qu'on associe ou qu'on cherche à associer, c'est aussi une parole de communication, puisque l'Europe, c'est les trois, en fait. Donc c'est tout ça ensemble.
Alors pour terminer, je ne vais pas spoiler la fin du documentaire, même si vous en avez parlé vous, on ne va pas dévoiler comment le film répond à la question, est-ce que la bataille du siège, est-ce que la bataille des sièges est terminée, et donc il faudra regarder ce documentaire, ce film très, très intéressant et mené un peu comme un thriller, comme un...
Oui, c'est voilà. Ce qu'on a voulu, oui.
Donc, le regarder le 17 septembre à 22h45. Mais vous, en tant qu'auteur, après tout ce travail de recherche, diriez-vous que la bataille des sièges est terminée ou est-ce que c'est simplement une trêve en attendant un prochain épisode ?
Je pense que j'ai l'impression que ça s'est calmé, mais je pense que tous les épisodes ou toutes les saisons ne sont pas terminées encore pour de cette longue série de plusieurs saisons.
Donc, on pourra se voir dans quelques années pour faire encore un épisode. Alors merci Alexis Metzinger. Votre documentaire « L'Europe, la bataille des sièges » sera présenté en avant-première donc française le 15 septembre au Parlement européen, c'est déjà complet, avant sa diffusion sur France 3 Grand Est le jeudi 17 septembre, donc en deuxième partie vers 22h45. Donc à travers ce reportage Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, le film raconte donc une histoire européenne faite de compromis, de rivalités et de symboles et de rapports de force. Une histoire qui permet aussi de comprendre pourquoi ces trois villes occupent chacune une place particulière dans la construction européenne, mais aussi pourquoi la question des sièges continue de susciter encore des débats aujourd'hui. Et finalement, derrière cette bataille, c'est peut-être une question plus large qui se pose. Comment construire une Europe commune lorsque chaque État, chaque institution et chaque ville cherchent aussi à défendre sa place ? Alors, vous avez choisi de laisser les différentes voix se confronter sans imposer une réponse unique. C'est donc aux spectateurs, à vous, chers auditeurs, de vous faire une idée. Il nous reste pour cela plus qu'à découvrir l'Europe, la bataille des sièges sur France 3 Grand Est le jeudi 17 septembre en deuxième partie de soirée. Merci encore, Alexis, et à très bientôt.